Wilkie Collins. Je dis non. Tome 1er. Livre 1. À la pension. Chapitre 1er. Le souper clandestin. En dehors du dortoir, la nuit était paisible et sombre. Une petite pluie tombait dans le jardin, trop doucement pour qu'on pût l'entendre. Grâce à l'absence de vent, pas une feuille ne bougeait. Le chien de garde s'était endormi, les chats étaient rentrés. Pas un souffle ne troublait le silence de la terre sous un ciel couleur de suie. À l'intérieur du dortoir, la nuit n'était pas moins noire et moins paisible. Miss Ladd connaissait trop bien ses devoirs de maîtresse de pension pour tolérer une lumière nocturne. Par conséquent, les élèves, fidèles observatrices de la règle, devaient être profondément endormis. De temps en temps, pourtant, le calme absolu était légèrement troublé par l'une ou l'autre des jeunes filles se retournant sur son lit. C'était le seul bruit perceptible, puisqu'on ne saisissait même pas celui de la respiration des dormeuses. Le premier son qui vint rappeler la vie et son animation fut purement machinal. C'était une horloge qui le causait. Venant des basses régions du logis, l'organe du père Temps déclara que, dans une heure, il serait minuit. Une douce voix s'éleva languissamment du côté de la porte. « Émilie, dit-elle, il est 11 heures. » Il n'y eut pas de réponse. Au bout de quelques instants, la voix languissante reprit sur un ton plus haut. « Émilie !» Une jeune fille, dont le lit était au fond du dortoir, soupira sous la pesante chaleur de la nuit et dit ensuite « Est-ce vous, Cécilia ?»«
Oui !»«
Que voulez-vous ?»«
Je commence à avoir faim, Émilie. Est-ce que la nouvelle ne dort pas encore ?»
La nouvelle se chargea de répondre avec autant de promptitude que d'aigreur « Non, elle ne dort pas !» Ayant un but particulier en perspective, les 5 vierges sages de la première classe de Miss Ladd se tenaient éveillés depuis une heure, dans l'espoir que l'étrangère finirait par s'endormir, et voilà à quel résultat cette veille aboutissait. Le bruit d'un fou rire courut tout autour de la pièce, tandis que la nouvelle pensionnaire, mortifiée et blessée, exprimait nettement sa façon de penser à ce sujet.
« Vous me traitez indignement. Vous vous méfiez de moi parce que je suis étrangère.
Dites que nous ne vous connaissons pas et vous serez plus près de la vérité, » dit Émilie, prenant la parole au nom de ses camarades.
« Comment pourriez-vous me connaître puisque je ne suis arrivée que d'hier soir? Je vous ai déjà dit que je m'appelle Francine de Sors. Maintenant, si vous voulez le savoir, j'ai 19 ans et je viens des Indes occidentales. »
Ce fut encore Émilie qui se chargea d'interpréter les sentiments de l'assistance.
« Mais pourquoi êtes-vous venue ici ? » demanda-t-elle. « Qui a jamais entendu parler d'une jeune fille entrant en pension juste au moment où commencent les vacances ? Vous avez 19 ans, dites-vous. Je suis d'un an plus jeune que vous et mon éducation est finie. Il y a parmi nous une autre pensionnaire d'un an plus jeune que moi et dont l'éducation est également terminée. » Que vous reste-t-il encore à apprendre à votre âge ?
Tout ! S'écria l'originaire des Indes occidentales en fondant en larmes.
Je ne suis qu'une pauvre créature ignorante. Votre éducation aurait dû vous enseigner à me plaindre au lieu de vous moquer de moi. Je vous déteste ! C'est indigne ! Indigne !
Quelques jeunes filles se mirent de nouveau à rire. Une autre, celle qui avait parlé la première, prit le parti de Francine.
Ne faites pas attention à leur rire, Miss de Sors.
Oui, c'est vrai, vous avez raison de nous accuser de manquer d'égard. Francine de Sors essuya ses yeux.
Merci, qui que vous soyez, dit-elle vivement.
Je m'appelle Cécilia Wyville. Ce n'était peut-être pas précisément gentil à vous de nous dire que vous nous détestez. Mais comme, de notre côté, nous avions oublié les lois de la politesse, ce que nous avons de mieux à faire, c'est de vous demander pardon. » Cette manifestation généreuse sembla déplaire à celle des jeunes filles qui, selon toute apparence, régnaient sur ses compagnes.
« Je peux vous dire une chose, Cécilia, dit-elle avec animation, c'est que vous ne me dépasserez pas en générosité. Allumez une bougie, je me dénoncerai moi-même si Miss Lane nous découvre. J'ai l'intention de donner une poignée de main à la nouvelle, et comment le pourrais-je dans l'obscurité ? Miss Dessort, mon nom de famille est Brown, et je suis la reine du dortoir. C'est moi, et non Cécilia, qui vous présente nos excuses si nous vous avons offensé. Cécilia est ma meilleure amie, mais je ne lui permets pas d'usurper mes droits. Oh, quelle ravissante robe de nuit ! La lumière de la bougie venait de lui montrer Francine assise sur son lit et étalant autour de son cou assez de vraies dentelles pour faire perdre à l'altière souveraine tout sentiment de la dignité royale. « 7 shillings 6 pence !» dit Émilie dédaigneusement en portant son regard sur sa propre robe. L'une après l'autre, toutes les jeunes filles cédèrent à l'attrait de la vraie dentelle. Les sveltes et les potelées, les blondes et les brunes, vinrent en longue draperie blanche tourner autour de la nouvelle élève pour arriver bien vite à cette commune conclusion que son père doit être riche. Cette personne, si favorisée de la fortune sous le rapport de l'argent, l'était-elle à un égal degré quant à la beauté physique ? La disposition des lits plaçait Francine de Sort entre Cécilia à droite et Émilie à gauche. Si, par quelque hasard fantastique, un homme, disons par respect des convenances, un médecin, marié et suivi de la vigilante Miss Ladd, était entré dans le dortoir et qu'on lui eût demandé ensuite ce qu'il pensait de ses occupantes, il n'aurait pas même mentionné Francine. Aveugle pour les coûteuses splendeurs de sa robe de nuit, il se serait borné à remarquer la longue distance du nez à la bouche, le menton opiniâtre, la longue lèvre supérieure, le menton têtu, son teint blafard, ses yeux placés trop près l'un de l'autre et auraient tourné son attention vers ses plus proches voisines. De l'autre côté, son intérêt aurait été instantanément réveillé par la lumineuse chevelure auburn de Cécilia, sa peau exquisement pure et ses tendres yeux bleus. D'autre part, il aurait découvert une adorable petite créature qu'il aurait fasciné et rendu perplexe en même temps. S'il avait été interrogé par un étranger, il aurait été en peine de dire clairement si elle était lumineuse ou ténébreuse. Il aurait parlé de ses yeux, mais il n'aurait pas su de quelle couleur ils étaient. Et pourtant, elle était restée une image vivante dans sa mémoire lorsque d'autres impressions avaient disparu. Il y avait une petite sorcière parmi eux qui valait tout le reste mis ensemble et je ne peux pas vous dire pourquoi. On l'appelait Émilie. Si je n'étais pas un homme marié... Là, il aurait pensé à sa femme, aurait soupiré et n'aurait plus rien dit. Tandis que les filles étaient encore en train d'admirer Francine, la pendule sonna 11h30. Cécilia vola sur la pointe des pieds à la porte, regarda et écouta, referma la porte et s'adressa à ses camarades avec le charme irrésistible de sa voix douce et son sourire persuasif. « Avez-vous encore faim ? » a-t-elle demandé. « Les maîtresses sont en sécurité dans leur chambre. Nous, nous sommes tranquilles sur la droite avec Francine. Pourquoi garder le souper qui attend sous le lit d'Émilie ?» Un raisonnement comme celui-ci ne demandait qu'une seule réponse. La reine agita la main avec grâce et dit « Tirez !» C'est une belle fille dont le visage possède le charme de l'expression, dont le moindre mouvement révèle la souplesse de la taille. Avec la grâce qui lui est propre, Cécilia plongea sous le lit et produisit un panier de tartes à la confiture, un panier de fruits et de friandises, un panier de limonade et un superbe gâteau, le tout payé par les abonnements et la contrebande. À cette occasion, la fête a été particulièrement abondante et coûteuse pour fêter non seulement l'arrivée des vacances de mi-été, mais de la fin des études et de la liberté de deux grandes jeunes filles. Avec des destins très différents, Émilie et Cécilia ont terminé leur vie scolaire et maintenant elles peuvent sortir dans le monde. Le contraste entre les caractères des deux jeunes filles se montra même en si peu de choses que les préparatifs pour le souper. Cécilia, douce, assise sur le sol, entourée de bonnes choses, a laissé les autres décider si les paniers devaient être vidés tous à la fois ou remis de lit en lit, un par un. En attendant, ses adorables yeux bleus regardaient tendrement les tartes. L'esprit dominateur d'Émilie s'empara des rênes du gouvernement et sut assigner à chacune des jeunes filles présentes le rôle le mieux en rapport avec ses facultés. « Mise de sort, montrez-moi votre main !»« Ah oui, je m'en doutais. C'est vous qui avez le poignet le plus solide. Vous déboucherez les bouteilles. Mais si vous laissez sauter un seul bouchon, pas une goutte de limonade ne vous humectera le gosier. Effie, Anis, Priscilla, vous êtes notoirement très paresseuses, c'est vous donner un vrai témoignage de bonté que de vous procurer du travail. Effie, débarrassez la table de toilette, faites disparaître peignes, brosses et miroirs. Anis, déchirez les feuilles de votre cahier de version, elles nous serviront d'assiette. Non, c'est moi qui déballerai, que personne ne touche aux corbeilles. Priscilla, ma chère, vous avez les plus jolies oreilles du monde, c'est vous qui ferez sentinelle près de la porte. Cécilia, quand vous aurez fini de dévorer les tartes des yeux, vous prendrez les ciseaux. Permettez-moi, mise de sort, de m'excuser de la façon mesquine dont cette pension est tenue. Les fourchettes et les couteaux sont comptés et mis sous clé tous les soirs. Je vous disais donc, Cécilia, de prendre une paire de ciseaux et de découper le gâteau dont vous voudrez bien ne pas garder la plus grosse part. Êtes-vous prête? Très bien. Maintenant, prenez modèle sur moi. Causez si bon vous semble, mais pas trop fort. Un mot avant de commencer. En pareil cas, les hommes portent des santé. Imitons les hommes. L'une de vous est-elle capable de formuler un toast? Non? Cela retombe sur moi comme d'habitude. Voici mon premier toast. À bas les pensions, à bas les maîtresses, surtout la dernière venue. Miséricorde, comme ça pique! Le gaz de la limonade venait de prendre la discoureuse à la gorge, ce qui arrêta brusquement le cours de son éloquence. Personne ne s'en plaignit, sauf les estomacs faibles, qui donc se soucient d'éloquence en face d'une table bien servie. Il n'y avait pas d'estomac faible dans le dortoir. Avec quelle inépuisable énergie buvaient et mangeaient les jeunes élèves de Miss Ladd. Avec quel entrain elles profitaient du délicieux privilège de dire des folies. Et, hélas, hélas, combien furent vains plus tard leurs essais pour renouveler le plaisir alors sans mélange de se bourrer de tartes et de limonades. Dans l'œuvre incompréhensible de la création, il ne semble pas y avoir de bonheur humain, pas même celui des pensionnaires, qui soit jamais complet. Au moment où la fête tirait à sa fin, elle fut troublée par un avertissement de la sentinelle placée près de la porte. « Soufflez la bougie !» dit à voix basse Priscilla. « Il y a quelqu'un dans l'escalier !»